Chapitre 29. Le mouvement Terre Trisolaris. L'aspect le plus étonnant du mouvement Terre Trisolaris était que tant de gens aient perdu tout espoir dans la civilisation humaine et que, le cœur plein de haine, ils soient prêts à trahir leur propre espèce. Tant de gens dont le plus grand rêve était d'éliminer l'humanité entière, y compris eux-mêmes et leurs descendants. L'OTT était une organisation de bourgeois intellectuels. La majorité de ses membres étaient issus de l'intelligentsia et comptait un nombre non négligeable de représentants des élites politiques et économiques. L'organisation avait tenté de s'élargir à un plus grand public, mais ses efforts s'étaient révélés vains. Peut-être les gens ordinaires n'avaient-ils pas une compréhension aussi fine que l'intelligentsia du mal profond de l'humanité. Plus important encore, leur pensée étant moins influencée par la science et la philosophie moderne, ils éprouvaient un écrasant sentiment d'identification à l'égard de leur espèce. Trahir la race humaine dans son ensemble leur était inconcevable. Au contraire, beaucoup de membres de l'élite intellectuelle tentaient de dépasser les simples perspectives anthropocentrées. La civilisation humaine avait enfin donné naissance en son propre sein à une puissante force aliénée. Si une masse incroyablement croissante de membres rejoignait chaque jour les rangs de l'OTT, ce n'était pas vraiment à leur nombre qu'il fallait juger la puissance de l'organisation, car beaucoup d'entre eux tenaient des postes clés au sein de la société, et leur pouvoir comme leur influence était énorme. En tant que guide des rebelles de Terre Trisolaris, Iwanji se contentait d'un rôle de leader spirituel. Elle ne participait jamais aux actions concrètes de l'organisation, et ignorait comment celle-ci avait pu atteindre une telle envergure. Elle ne savait même pas le nombre exact de ses membres. Les gouvernements des différents pays n'avaient pas suffisamment prêté attention à la montée en puissance des rebelles de Terre Trisolaris. Afin de gagner davantage de partisans, les activités de l'organisation étaient en partie publiques. Ils savaient qu'ils seraient naturellement protégés par le conservatisme et le manque d'imagination des gouvernants. Et de fait, dans les organes du pouvoir, personne ne croyait à leurs histoires, qu'on prenait pour du charabia de gourous sectaires, quoique, en raison du statut social de plusieurs membres de l'organisation, on garda tout de même un œil sur leurs activités. Mais ce ne fut véritablement que lorsque l'OTT commença à développer son propre système d'armement que les organes de sécurité gouvernementaux commencèrent à la prendre au sérieux et s'aperçurent peu à peu du caractère très inhabituel du mouvement. Quant aux attaques concrètes contre l'OTT, elles n'avaient débuté que depuis 2 ans à peine. L'OTT n'était pas une organisation homogène. Elle se divisait en plusieurs chapelles idéologiques, dont les deux principales étaient celles des adventistes et des rédemptoristes. Les adventistes étaient les premiers et les membres les plus fondamentalistes de Terre Trisolaris. Cette faction était principalement composée des disciples du communisme antispéciste d'Evans. Leur idéal était simple, anéantir la civilisation humaine. Les adventistes avaient perdu tout espoir dans la nature de l'homme, et ce désespoir prenait sa source dans la destruction de masse de toutes les autres espèces vivantes par la civilisation moderne. Evans en était la figure majeure. Plus tard, la haine des adventistes pour l'humanité s'étendit à d'autres sphères. Elle ne se limitait plus aux questions d'écologie ou de guerre, mais s'élevait à un niveau plus abstrait et plus philosophique. Contrairement à ce qui fut imaginé bien plus tard, les adventistes étaient des pragmatiques. Ils ne plaçaient pas d'espoir immense dans la venue de la civilisation extraterrestre qu'ils avaient décidé de servir. Leur trahison se fondait uniquement sur leur désespoir et leur aversion pour l'humanité. Une phrase d'Evans était devenue leur devise. « Nous ne connaissons pas la civilisation extraterrestre, mais nous connaissons la civilisation humaine. » Le rédemptorisme, pour sa part, était un courant né bien après la fondation de l'OTT. C'était une faction de nature religieuse formée par les disciples du trisolarisme. Les classes intellectuelles éprouvaient naturellement un grand attrait pour cette civilisation extra-humaine et il était facile de développer toute une mythologie autour de celle-ci. Pour prendre une métaphore quelque peu inappropriée, L'humanité était un être ignorant marchant seul dans le désert de l'univers et qui venait tout juste de découvrir une personne d'un autre sexe. Bien qu'il ou elle ne vit ni son visage ni sa silhouette, il, elle, savait qu'il, elle, était là, quelque part dans le lointain, et le fantasme entourant cette présence faisait sur lui, elle, l'effet d'un feu ardent. Peu à peu, cette civilisation éloignée fit germer dans les esprits des rédemptoristes des idées foisonnantes. Ils se mirent à éprouver pour la civilisation trisolarienne des sentiments religieux. Alpha du Centaure devint un mont Olympe cosmique, une demeure divine, et c'est ainsi que la religion trisolariste vit le jour. Elle différait des autres religions humaines en cela que les trisolaristes priaient quelque chose de tangible. Et au contraire des autres formes de spiritualité, c'était leur dieu qui se trouvait dans une situation de détresse, et c'était leur disciple qui était responsable de leur salut. Les informations sur la culture trisolarienne étaient propagées par le biais du jeu des trois corps. Cet ambitieux logiciel avait été développé grâce aux efforts importants des rebelles de Terre Trisolaris. Les objectifs initiaux étaient tout d'abord de convertir un grand nombre de mécréants au trisolarisme, puis d'étendre les tentacules de l'organisation pour ne pas la restreindre aux hautes sphères intellectuelles de la société, en recrutant des membres plus jeunes, issus de classes moins favorisées. Le jeu utilisait comme carapace des éléments empruntés à l'histoire et à la société humaine pour narrer celle de Trisolaris et éviter que les joueurs débutants ne soient trop déstabilisés par leur étrangeté. Lorsque le joueur avait atteint un certain niveau du jeu et qu'il avait commencé à apprécier le charme de la civilisation trisolarienne, l'OTT le contactait directement, testait son degré de sympathie envers Trisolaris et, s'il était retenu, le joueur devenait finalement membre de l'organisation. Cependant, le jeu des trois corps peinait à renforcer la visibilité de l'organisation, car il nécessitait d'avoir des préacquis importants en matière de science et une capacité de réflexion poussée. Les jeunes joueurs n'avaient ni les compétences ni la patience nécessaires pour découvrir la vérité troublante se dissimulant derrière le voile en apparence simpliste de ce monde virtuel. Ainsi, la plupart des joueurs des trois corps étaient-ils eux aussi des intellectuels. Une grande partie des rédemptoristes avait découvert la civilisation de Trisolaris par l'intermédiaire des trois corps. On pouvait dire que le jeu était le berceau de ce courant. Alors que les rédemptoristes avaient développé pour la civilisation trisolarienne des sentiments religieux, leur attitude envers l'humanité n'était pas aussi radicale que celle des adventistes. Leur idéal ultime était de sauver les dieux, et pour atteindre ce but, une portion du monde humain pouvait éventuellement être sacrifiée. Mais beaucoup d'entre eux se disaient que si les Trisolariens arrivaient à survivre dans leur propre système d'Alpha du Centaure, ils n'auraient plus besoin d'envahir le système solaire, et l'issue serait idéale pour les deux mondes. Ils avaient la naïveté de croire que la résolution de l'énigme physique du problème à trois corps permettrait d'atteindre ce but, en sauvant les deux mondes. Cette idée n'était en réalité pas aussi candide qu'elle en avait l'air, car, bien longtemps, cette issue avait été celle envisagée par la civilisation trisolarienne. Les efforts pour résoudre le problème à trois corps les avaient occupés durant plusieurs centaines de cycles de civilisation. Les adeptes rédemptoristes comptaient dans leur rang beaucoup de physiciens et de mathématiciens qui s'étaient donné pour mission de trouver une solution à cette énigme. Même après avoir appris que le problème à trois corps était, par essence, impossible à résoudre mathématiquement, ils n'avaient pas cessé leurs efforts. Les tentatives de résolution du problème à trois corps étaient devenues une sorte de rituel de la religion trisolariste. Mais malgré l'investissement de physiciens et de mathématiciens de haut rang, aucune avancée majeure n'avait été accomplie, et, à l'inverse, c'était le génial mathématicien Wei Cheng, qui n'avait rien à faire avec l'OTT et le trisolarisme, qui était parvenu à effectuer, sans vraiment en être conscient, le bond le plus marquant dans ce champ de recherche où les rédemptoristes plaçaient tous leurs espoirs. Les deux groupes étaient dans une situation de conflit permanent. Les adventistes estimaient que les rédemptoristes constituaient une menace pour le mouvement Terre Trisolaris. Ce n'était d'ailleurs pas une considération dénuée de fondement. En effet, C'était par le biais de personnalités ayant de grandes responsabilités au sein de la frange rédemptoriste que les gouvernements nationaux découvraient peu à peu la terrifiante vérité que tentait de cacher l'organisation. Chaque faction possédait une force sensiblement égale au sein de l'organisation. Chacune d'entre elles en était d'ailleurs arrivée à développer ses propres milices, et la guerre interne couvait. Iwanji faisait tout ce qu'elle pouvait pour combler le fossé existant entre les deux camps, en usant de son prestige et de son autorité, mais avec peu d'effet. Au fur et à mesure de l'évolution du mouvement, une troisième force apparut au sein des rebelles de l'OTT, les survivalistes. Lorsque la preuve fut apportée qu'une flotte extraterrestre s'apprêtait bel et bien à envahir le système solaire, survivre à cette guerre qui s'annonçait était devenu le désir humain le plus naturel. Bien entendu, la guerre aurait lieu dans 450 ans et le monde n'aurait rien de commun avec celui d'aujourd'hui. Mais beaucoup espéraient que, si l'humanité devait perdre la guerre dans 4 siècles, leurs descendants pourraient implorer leur survie s'ils se mettaient dès maintenant au service des envahisseurs. Par comparaison avec les deux autres factions majoritaires, les survivalistes étaient composés en grande partie d'éléments issus de classes plus basses, et les Asiatiques, en particulier des Chinois, y étaient nombreux. Ils ne représentaient pour l'instant qu'une portion minime dans l'organisation, mais leur nombre ne cessait de croître. À mesure que la culture trisolarienne se répandrait de par le monde, ils constitueraient peu à peu une faction incontournable. Une force aliénée née des carences de l'humanité. Le fantasme et l'adoration d'une civilisation supérieure, et enfin le désir suprême de voir ses descendants survivre à une guerre ultime. Ces trois puissantes forces motrices donnaient au mouvement Terre Trisolaris un élan fantastique. Si bien que, quand les autorités commencèrent à mettre le nez dans leurs affaires, le feu avait déjà pris sur la plaine. Au même moment, la civilisation extraterrestre se trouvait encore dans les profondeurs de l'espace, à 4 années-lumière de là, séparée du monde humain par un long périple qui durerait 4 siècles et demi. Et la seule chose qui avait été envoyée sur la Terre, c'était une série d'ondes radio. La théorie du contact comme symbole de Bill Matthews recevait là une parfaite, mais terrifiante, démonstration.